vous sur 95,3.
Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a réuni la semaine dernière les responsables de plusieurs structures de lutte contre le sida et le paludisme du sud de Kivu. Objectif, identifier les problèmes constatés à la fin de la première phase du projet dit Fonds Mondial, projet qui vise à améliorer l'état de santé des malades du VIH-Sida et du paludisme. Objectif final, réduire le taux de mortalité en République démocratique du Congo. Nous faisons le point pour commencer avec Delphi et puis tout à l'heure nous recevrons le médecin provincial du sud de Kivu. Vous, Delphi, vous êtes en ligne, vous avez eu à prendre part à cette rencontre du PNUD avec les différentes structures de santé. Que peut-on attendre d'ores et déjà en ce qui concerne ce projet Fonds Mondial?
Oui, Nicole, bonjour. Au fait, le projet Fonds Mondial dont il est question ici est opérationnel depuis 2 ans déjà en RDC. Et comme annoncé, c'est un projet noble qui vise à réduire le taux de mortalité occasionné dans le pays par le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, les IST comme on les appelle couramment, et le paludisme. Et la soumission pour la RDC, selon le PNUD qui en est, je dirais, le patron, a été agréée par les instances du Fonds mondial à Genève pour 5 ans, dont 2 ans pour la première phase et 3 ans pour la seconde phase. Alors, après la première phase qui vient de prendre fin, une mission de PNUD a réuni à Bukavu plus de 60 représentants des structures sanitaires de la province du Sud Kivu, et en effet pour procéder à une sorte d'évaluation avant le démarrage effectif de la deuxième phase du projet.
La première phase, vous avez dit qu'elle a pris 2 ans, mais qu'est-ce qui a été fait exactement, concrètement, pendant cette deuxième phase?
Oui, et pour répondre à cette question, je vous laisse suivre les explications du docteur Nicolas Yves Alexandre, qui est le coordonnateur principal de PNUD en RDC, Unité Fonds Mondial. C'est bien lui qui a présidé les assises avec ses acteurs de santé de la place.
Donc la phase 1 est une phase d'étude, d'expérimentation, au niveau de laquelle le pays doit faire preuve des capacités réelles de développer vraiment la soumission entière. Donc, et le pays doit satisfaire des indicateurs à base d'effectif, quantitatif. Il doit faire preuve d'au moins 80% de réussite au niveau de chaque objectif à base d'indicateurs, grâce aux sous-bénéficiaires qui ont su atteindre les objectifs de la phase 1, à savoir un certain nombre de patients à mettre sous ARV, un certain nombre de moustiques terrestres à distribuer, un certain nombre de préservatifs à distribuer, un certain nombre de femmes enceintes à faire de la prophylaxie à leur niveau, tant sida que palu, un certain nombre de rôles communautaires à rendre actifs, etc. C'est en quelque sorte l'ensemble des objectifs de la phase 1 qui ont été codifiés sous base d'indicateurs et avec des effectifs à satisfaire au niveau de chaque indicateur. Globalement, nous avons satisfait, quand je dis nous, c'est l'ensemble des concernés, la partie nationale à travers les structures de tutelle et les programmes nationaux, les sous-bénéficiaires et nous qui garantissons une gestion programmatique et financière au niveau de la soumission. Nous sommes parvenus à plus de 80% de satisfaction globalement au niveau de tous les indicateurs. C'est une des conditionnalités de passer à la phase 2.
Donc globalement, il y a eu satisfaction, hein, ça c'est au niveau des indicateurs, des différentes structures de santé, mais nous savons qu'il n'y a pas que le général. Spécifiquement, vous êtes à Bukavu, qu'est-ce qu'on peut dire de la satisfaction spécifique en ce qui concerne la ville de Bukavu?
Eh bien, Nicole, pour le site qui vous, les résultats attendus semblent aussi être positifs, parce qu'à ce propos, nous avons essayé d'interroger quelques acteurs qui sont très actifs sur terrain et présents même à la rencontre de la semaine dernière. Et ceci confirme qu'il y a une très bonne amélioration à cause de l'implication de beaucoup de structures opérationnelles dans le domaine du sida et du paludisme. Alors, nous avons également constaté que c'est une position soutenue par le docteur Manu Bourolé, qui est le médecin inspecteur provincial du Sud Kivu. Je vous propose de l'écouter également.
Par rapport aux années antérieures, je vous dirais que vraiment il y a une très très bonne amélioration en ce qui concerne les indicateurs. Hein, parce qu'il faut nous dire que non, dans notre province, nous avons beaucoup beaucoup de partenaires par rapport à d'autres provinces comme les Bandundu. On n'a jamais eu même un comprimé d'ARV. Nous avons des partenaires avec qui nous planifions et nous travaillons. Et ce qui fait que la situation sanitaire en termes de sida s'améliore. Parce qu'avoir même les résultats les résultats que nous avons présentés lors de la revue PNLS, c'était que sur un total des gens qui sont mis sous ARV, donc c'était plus ou moins 15 000 personnes. Nous avons présenté les tiers, donc plus ou moins 5 000. Et ce sont des données que nous, nous avons présentées et ce sont des données que nous récoltons de nos structures, de prise en charge. En ce qui concerne les PALU, il ne semble pas ignorer que c'est vraiment les PALU qui constituent parmi les maladies qui tuent hein, beaucoup hein, les enfants. Et bon, il y a une nette amélioration avec la surveillance, avec les médicaments qu'on a, les ACT. Nous voyons vraiment qu'il y a une chute progressive, même à l'intérieur du pays.
Il y a une nette amélioration, mais hormis cela, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres objectifs qui ont été atteints? Est-ce que vous êtes entré en contact avec le médecin coordonnateur provincial chargé de lutte contre le sida et les IST
tout à fait, Nicole. Et celui-ci a révélé que grâce au projet Fonds mondial, les acteurs de santé ici au Sud Kivu sont parvenus à distribuer, par exemple, 120 000 préservatifs en province. 18 000 personnes vivant avec le VIH-Sida ont été soignées et plus de 28 000 ont bénéficié d'accompagnement psychosocial. Et puis, plusieurs agents de santé des différents domaines ont été vraiment formés. Il s'agit notamment des médecins et on voit également les agents chargés de dépistage, pour ne citer que ça. Et je dois aussi souligner que bon, le PNUD s'est dit très satisfait du dynamisme particulier des structures sanitaires du Sud Kivu. On voit 60 représentants qui ont répondu présents à l'importante rencontre qui a eu lieu, contrairement aux 6 autres provinces déjà sillonnées où on a enregistré qu'une trentaine de représentants. Voilà.
Mais bon, la population s'interroge tout de même hein, sur la contribution de Fonds mondial. Les partenaires de la Banque mondiale ont sensibilisé, vous l'avez dit, les structures sanitaires sur la nouvelle approche d'intervention de la lutte contre les maladies citées. Mais quels sont les points faibles relevés pendant la première phase?
Et Nicole, si ces acteurs de santé sont unanimes qu'ils ont atteint un nombre assez élevé des résultats attendus, ils affirment néanmoins qu'il y a eu certains problèmes réels dans l'exécution de leurs tâches pendant la première phase. Et ces problèmes ont fait l'objet de discussions pendant la séance de travail, comme on était aussi là présente, pour être corrigés dans la nouvelle phase par les bailleurs de fonds. On écoute les différentes réactions qu'on a recueillies de quelques responsables des structures de santé qu'on a pu rencontrer après la rencontre.
Le point faible, c'était la verticalisation de la lutte, et c'est ce qu'on cherche à corriger, et l'implication et le renforcement des capacités institutionnelles, mais aussi l'augmentation de l'opération des capacités de ces mêmes partenaires et de ces Global Fund.
Nous sommes très contents de voir que le PNUD Fonds mondial pense encore à nous, en envoyant des gens ici. Mais ce qui est un peu drôle, c'est que comme si on n'était plus au ghetto, quoi, parce que ils arrivent, et puis les délais impartis pour pouvoir effectivement se missionner ne permettraient pas aux gens de pouvoir se missionner pour que le sous-projet arrive un peu plus à temps. Parce que vous avez appris que c'est jusqu'au 15 février que les soumissionnaires pourraient déjà faire arriver leur projet. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant écrire, disons, le projet et ensuite les déposer, je ne sais pas si c'est à la poste ou je ne sais pas, à un endroit bien précis. Et si on n'est pas prêt, à partir du 1er février, vous êtes arrivé au 15 sans avoir donné quoi que ce soit. De toutes les façons, vous savez que les formations circulent beaucoup plus difficilement. Et d'ailleurs, quand on parle de première phase, moi, en tant que président du Forum SIDA, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé. On ne nous a pas réunis comme maintenant. Nous n'avons pas été avisés comme Forum SIDA, comme bureau du Forum. Peut-être l'information est passée de bouche à oreille ou d'oreille à oreille. Bon, je n'en sais rien.
C'était la première fois que le PNUD venait organiser un atelier pour expliquer la manière dont les soumissionnaires devaient présenter leur projet. C'était un canevas vaste. Ils ont donné beaucoup de détails et ils ont expliqué aux différents soumissionnaires la manière dont ils devraient présenter leur projet. Et je pense que la plupart des participants ont été satisfaits.
Voilà, la première phase est passée sans pour autant qu'on s'en rende compte. Alors la deuxième phase, bon, on verra si ça sera une réussite, hein, parce que bon, il y a beaucoup à dire là-dessus aussi, hein, Delphine Amouto. On va faire le point à présent avec le docteur Bissi Mouane Siboula. Il est médecin provincial du Sud Kivu, chargé de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. On peut se quitter, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non, bon, c'était pour dire aussi que la deuxième phase va démarrer pour ce mois de janvier. Et donc, elle a déjà démarré. La province du Sud Kivu, qui était, disons, la sixième province visitée par les partenaires de la Banque mondiale. Et ils devront donc, toute cette délégation devra, dans les tout prochains jours, sillonner les autres provinces de la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est le docteur, comme tu viens de le dire là, le docteur Siboula, notre invité, qui pourra nous donner des détails en rapport avec ce projet.
Merci beaucoup Delphine Namuto et à la prochaine.
Merci à toi.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Docteur Bissimouan Tsiboula, médecin provincial du Sud Kivu, chargé de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Vous êtes notre invité hein, pour cette émission, ce qui concerne les projets de soumission hein, au Fonds mondial. Comment cela évolue-t-il? Parce que jusque-là, tout à l'heure, on a suivi le point de vue de quelques participants qui nous ont dit que lors de la première phase, c'est comme si on n'avait pas associé tout le monde. Alors pour cette deuxième phase, comment ça évolue jusque-là?
Merci beaucoup pour la parole, parce que pour cette deuxième phase, les choses se passent autrement. On a vu d'abord cette séance de sensibilisation des responsables du Global Fund, et les gens ont déjà, nous avons déjà affiché les offres au niveau de notre bureau et de l'Institut provincial de la santé, et nous sommes déjà en train de recevoir quelques soumissions au niveau des ONG locales et même les ONG internationales qui existent ici au Kivu sont en train de venir poser quelques questions pour bien raffiner leur
projet
au niveau du projet.
Tout à l'heure, on a eu quelques interrogations. Hein. Il y a certains qui nous ont dit il y a des conditions qu'il faudrait remplir hein, pour la soumission du projet. Il est peut-être bon hein, de revenir là-dessus. Quelles sont les conditions qu'il faut nécessairement avoir lorsqu'on présente son projet au Fonds mondial?
Il y a des conditions qu'il faut quand même remplir, parce que vous n'allez pas être une ONG familiale et dire que vous allez présenter un projet. Il faut avoir certaines capacités bien prouvées sur le terrain. Et il faut dire dans quelle zone de santé vous allez intervenir, dans combien de structures au niveau de cette zone de santé, quel paquet d'activités vous allez mener au niveau de cette zone de santé. Et aussi, avoir prouvé que réellement vous êtes actif sur le terrain. Et puis il y aura une sélection d'abord au niveau provincial et la signature du médecin instructeur et de nous-mêmes ainsi que des médecins chefs de zone à la base. Donc tout va commencer à la base pour remonter au niveau national.
Mmh. Cette deuxième phase vise à améliorer l'état de santé des malades hein, du VIH-Sida ainsi que du paludisme. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le bilan qu'on a aujourd'hui au niveau du Sud Kivu en tant que médecin provincial du Sud Kivu? Qu'est-ce qu'on peut dire hein, sur l'état actuel du VIH-Sida et du paludisme dans le Sud Kivu?
L'état actuel du VIH-Sida au niveau surtout de la lutte contre le VIH-Sida au niveau du Sud Kivu se porte bien. Nous avons, par exemple, à titre illustratif, à peu près 54 structures pétainées. Nous avons donc prévention de la transmission mère-enfant. Nous avons 34 centres de conseil et d'épitage volontaire. Nous avons 31 sites pour la prise en charge des ARV. Nous avons 52 structures qui soignent les infections opportunistes. Nous avons 57 structures qui soignent les infections sexuellement transmissibles. Et nous avons 12 structures qui font l'accompagnement psychosocial.
Le taux de prévalence du VIH-Sida dans le Sud Kivu, c'est à combien, estimé à combien à peu près?
Le taux de prévalence pour la dernière enquête, donc l'enquête de 2007-2006 est de 4,7% en moyenne.
C'est élevé, hein?
C'est élevé, oui. Parce que nous, au-delà de 1%, on est en épidémie.
Tout à fait. Tout à fait.
Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de cas de violences sexuelles et tout et tout. Et donc, ce taux est vraiment les cas.
Alors,
un grand désastre financier.
Oui. Alors, ceux qui auront à soumettre leur projet devraient insister énormément sur certains aspects dans la lutte contre le VIH-Sida. Lesquels exactement?
Oui. Ils devront insister sur certains aspects très nécessaires. Ce sont les aspects de prévention, les aspects de conseil et dépistage, les aspects des laboratoires, les aspects de la prise en charge par des PVV par les ARV, mais les aspects aussi des infections opportunistes, les aspects des infections sexuellement transmissibles, les aspects d'accompagnement psychosocial, des soins et des soutiens, mais aussi accompagner quelques recherches dans pour que nous puissions améliorer notre façon de travailler dans la province.
Oui, mais nous avons l'impression, docteur Bissimoa, que dans bien des cas, lorsqu'on remet des fonds à certaines ONG, que ce soit nationales ou internationales, bon, le résultat par après est dérisoire. Autrement dit, ce qu'on fait sur le terrain ne reflète pas les fonds qu'on leur a remis. C'est comme si rien n'a été fait, en fin de compte.
Bien sûr qu'il y a eu certains cas de dérapage, mais c'est pas chez tous les partenaires. On ne peut pas généraliser parce qu'il y a des partenaires quand même qui sont très efficaces sur le terrain et qui ont produit des résultats concrets. Mais il y a aussi d'autres partenaires que nous avons bâcler le travail qu'on leur avait demandé de faire chez nous.
Alors, je ne sais pas si à votre niveau, vous avez des partenaires sûrs, parce que bon, certains nous ont dit, dans bien des cas, lorsqu'on arrive à soumettre les projets, ce sont toujours les mêmes qu'on cible. Les autres, bon, on ne les prend pas en considération. Est-ce que c'est vrai?
Ok. Non, c'est pas des partenaires. On n'a pas de préférence, c'est les partenaires, mais il y a des partenaires traditionnels dans la lutte, par exemple, contre le sida au niveau du Sud-Sud. Il y a les partenaires, les ONG internationales, comme le cas de Corded qui travaille avec les VDM, comme GTZ, comme FHI, comme ACES, TSI. Il y a les gens qui travaillent avec la Fondation Femmes Plus. Moi, je crois que
d'office.
Il y a des partenaires qui portent du lot, mais aussi il y a les ONG locales qui bénéficient du financement du MAP PNMLS.
Oui, mais d'office, ces partenaires fidèles, leurs projets, automatiquement, on les accepte, n'est-ce pas?
C'est pas évident.
C'est pas évident. Oui.
On peut être fidèle cette année, mais on commet des erreurs qui font qu'on ne peut plus accepter qu'on puisse travailler.
On aura à vérifier tout ça par après pour voir comment ça va évoluer. Mais en ce qui concerne le paludisme, est-ce qu'il y a aussi des efforts à faire de ce côté-là?
Il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau du paludisme. Comme vous le savez, c'est le paludisme qui tue beaucoup plus, qui tue beaucoup d'enfants dans notre province. Et nous avons, jusqu'à notre dernière réunion de cette santé primaire, on était à plus de 72 000 cas de paludisme et plus de 200 décès. Donc il est important quand même qu'on puisse se focaliser sur cet élément. Mais il y a des efforts qui sont en train d'être fournis par
Docteur Bissimoa, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup.